Génération Passepartout, épisode 8. Aujourd'hui, on jase douleur ou comment apprivoiser la douleur de l'accouchement. C'est parti! Bienvenue sur Génération Passepartout, un podcast pour les parents, en devenir ou en plein dedans. Je suis Audrey Sénéchal, fondatrice de Petits Pas Portail Parents, au service de l'épanouissement des petits comme des grands. Repenser la naissance autrement, célébrer la petite enfance comme il se doit, mieux comprendre pour aligner vos choix, voilà ce qui vous attend. Pour une parentalité engagée et décomplexée, sans verser dans la culpabilité. Génération Passepartout, ta référence pour tout ce qui touche la périnatalité, la parentalité et la petite enfance. Bonne écoute! L'information contenue dans ce podcast ne remplace en aucun cas les conseils professionnels d'un médecin, d'une sage-femme ou tout autre professionnel de la santé. Il ne vise pas à donner de conseils précis ni individualisés et ne devrait pas être interprété de la sorte. Vous devriez toujours consulter un professionnel de la santé qualifié pour vos questions médicales personnelles avant de faire des choix éclairés. On a tout en tête un ou des récits d'accouchement un peu rock'n'roll entendus à droite, à gauche, soit de la part de notre entourage familial ou d'amis qui ont accouché avant nous. Puis on va se le dire, ce qui nous reste en tête, généralement, c'est les histoires négatives, celles qui vont faire grimper nos angoisses, nos craintes en flèche. Puis même si ces histoires-là sont souvent juste des brefs résumés de l'expérience de naissance, ben t'as certainement assez d'imagination pour remplir le vide par une version encore plus horrible que la réalité. C'est pas pour rien que la peur de la douleur occupe une si grande place pour beaucoup de femmes enceintes. Sans oublier le fait qu'il s'agit pas mal d'un passage obligé, d'un mal nécessaire, c'est le cas de le dire. Au fil du temps, avec l'évolution de la médecine puis des options disponibles, on a même tenté de contrôler la douleur, de l'engourdir ou même de la faire taire. Parce qu'après tout, pourquoi souffrir alors qu'on a accès à tout ce qu'il faut pour éliminer la douleur? À bien y penser, si je prends des Tylenol ou des Advil pour mettre KO un bon mal de tête, pourquoi je souffrirais pour donner naissance? Dans une société où la douleur est noble à peu près juste dans le domaine sportif, avec l'adage « no pain, no gain », force est d'admettre qu'on vit dans une société programmée pour fuir la douleur, à grands coups d'analgésiques à action rapide, avec effet de courte durée assuré. Ce qui amène parfois à nier la douleur de l'accouchement ou à lutter contre. Mais pourquoi pas chercher plutôt à l'apprivoiser? Et c'est ce que propose Isabelle Brabant, sage-femme, dans son magnifique texte « Ne touchez pas à ma douleur », où elle suggère que la meilleure façon de sortir de la douleur, c'est d'abord d'y entrer. Alors, entrons d'abord dans le vif du sujet, en commençant par définir c'est quoi la douleur. La douleur, c'est une expérience très subjective. Donc, la perception de la douleur va être extrêmement variable d'une personne à l'autre, mais aussi d'une culture à l'autre. C'est une expérience sensorielle, une expérience émotionnelle qui est généralement perçue comme désagréable. Mais la douleur a aussi un rôle de messager, d'un point de vue biologique et évolutif. C'est une information qui va permettre au corps de réagir. Donc, si je mets ma main sur le rond de poêle allumé, je suis quand même contente de pouvoir compter sur l'influx nerveux qui va transmettre le signal d'alarme à mon cerveau dans le temps de le dire pour renvoyer le signal à mes muscles d'enlever ma main au plus vite. Puis depuis qu'on est tout petit, bien, on a appris à réagir face à la douleur. Parce qu'inconsciemment, on a été aux premières loges des réactions de nos propres parents face à la douleur. Donc, si comme enfant, je m'érafle le genou au sang en courant trop vite dans gravelle, puis que ma mère réagit fortement, apeurée, ou encore se dépêche à me distraire avec une collation pour effacer le bobo, ou bien choisit d'ignorer ma crise de larmes, bien, peu à peu, comme enfant, je reçois des messages qui vont modeler dans le temps ma perception de la douleur. La douleur va donc être modulée en fonction de nos émotions, de nos propres expériences de vie, de notre éducation. Puis la douleur ne sera jamais vraiment exprimée de la même façon, ce qui en fait une expérience subjective, très variable d'une personne à l'autre, comme je le disais, mais aussi variable selon la charge émotionnelle du moment. Alors, si j'ai mal partout, que je dors vraiment mal, que j'ai l'anxiété dans le piton, ça se peut que ma réaction au moment même où je me cogne le petit orteil sur ma table de chevet en allant aux toilettes pour la troisième fois de la nuit soit intense. Mais qu'est-ce qu'il en est maintenant de la douleur de l'accouchement? La douleur de l'accouchement est quand même très différente de la douleur qu'on peut ressentir lors d'une blessure ou d'une brûlure, par exemple. Ici, la douleur de l'accouchement va nous indiquer que le processus de naissance suit son cours. C'est pas un signal d'alarme qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, en réponse aux douleurs de contraction, l'idéal, l'objectif, en fait, c'est que le corps se mette en mode réceptif et non en mode réactif pour se permettre d'adopter différentes positions, se permettre de faire des sons, par exemple, se permettre de créer sa bulle, son espace, dans le but de faire progresser le travail. Le corps est vraiment une machine incroyable. Il va aussi réagir en produisant des hormones qui, elles, vont contribuer à faciliter le processus de l'accouchement, mais aussi à te préparer à prendre soin de ton bébé et à l'allaiter. Et là, ben, il existe cette mince ligne-là, ce petit espace où la douleur peut être confondue avec la souffrance. Donc, la douleur, ça se trouve à être l'effet secondaire du processus physiologique normal de la naissance. Alors que la souffrance, elle, c'est plutôt l'état d'esprit, donc notre façon de percevoir, mais aussi notre façon de vivre la douleur. Puis la souffrance, elle peut être causée par différents facteurs psychologiques, comme la solitude, comme le manque de soutien, la peur, un sentiment de détresse, peut-être teinté par des expériences passées, ce qui va assurément teinter la perception de la douleur actuelle. Puis une fois qu'on saisit bien ce que ça représente, la douleur, mais aussi ce qui cause la souffrance, on a soudainement accès à un large éventail d'outils pour l'apprivoiser, cette douleur-là. À commencer par identifier tes peurs, mais aussi à les écrire, donc les écrire pour mieux les voir, pour qu'elles aient un peu moins d'emprise sur ton expérience de naissance. Et comme on arrive souvent à l'accouchement rempli d'idées préconçues, ben aussi bien s'y préparer de manière réaliste. Parce qu'on va se le dire, les chances sont grandes que toi aussi tu rêves d'arriver au lieu de naissance presque complètement dilaté après à peine quelques heures de contraction qui étaient encore là tolérables et qu'on t'annonce qu'il ne te reste plus qu'à pousser deux ou trois fois pour enfin tenir bébé dans tes bras. La réalité, c'est que c'est pas vrai que ça se passe souvent comme ça. Un accouchement, c'est douloureux. Puis ça rend service à personne de minimiser la douleur de l'accouchement pour, soi-disant, éviter de faire peur à la femme qui s'apprête à donner naissance. Au contraire, on a tout intérêt à se préparer de façon réaliste. Sinon, on se retrouve en plein travail, totalement dépourvu face à la puissance des sensations douloureuses qui vont nous sembler complètement insurmontables. À se demander même s'il ne se passe pas quelque chose de grave ou de tout simplement anormal. Parce que non, ça ne se passe pas tout le temps comme dans les films. Ça ne se passe pas comme sur Instagram non plus. Un accouchement, c'est magnifiquement puissant, mais ce n'est pas pour autant pétale de rose ou confetti. Donc une femme qui accouche, ça grogne, ça transpire, ça vomit des fois, ça laisse de côté les bonnes manières, puis ça peut perdre le contrôle de ses sphincters. C'est peut-être pas non plus ce que tu avais envie d'entendre, mais la fameuse notion de contrôle ici, ça se peut qu'elle te fasse perdre les pédales. parce que par définition, l'accouchement est imprévisible et incontrôlable. Mais la beauté dans tout ça, c'est que la douleur de l'accouchement annonce aucun danger. Au contraire, elle annonce que le travail progresse pour laisser passer bébé, pour amener bébé à toi jusque dans tes bras. C'est la douleur de l'effort, la douleur de où l'utérus va venir se contracter pour effacer le col, le dilater, puis lui permettre de s'ouvrir. Parce que le corps sait faire, le corps sait faire descendre bébé, tout comme il sait pousser bébé. L'accouchement est douloureux, oui, mais cette douleur-là, elle est à ta mesure, à la mesure de la femme qui accouche. Tout comme le poids du bébé que tu portes est à la mesure de l'enfant que tu peux mettre au monde. Mais la douleur est aussi souvent synonyme de fermeture, de repli sur soi, où le corps entre en mode protection, en mode résistance. Puis la peur de la douleur ou l'appréhension de la souffrance va amplifier encore plus cette douleur-là. C'est comme si on avait les mains remplies de braises vives et qu'on serrait, on refermait les doigts sur cette poignée de braise, on va se brûler davantage. Et si on accueillait cette douleur-là, si on lui ouvrait les bras plutôt que de résister ou de lutter contre, si on faisait confiance au processus? Parce qu'avec un peu de recul, une meilleure compréhension, on réalise aussi que plusieurs facteurs vont jouer sur cette fameuse perception de la douleur. Et là, quand je dis jouer, ça peut aller dans les deux sens. Donc, certains facteurs peuvent augmenter la perception de la douleur, alors que d'autres peuvent la diminuer. J'ai déjà nommé un peu plus tôt quelques facteurs qui augmentent la perception de douleur, comme la peur, l'appréhension de la souffrance, mais aussi l'appréhension de la prochaine contraction à venir. Donc, quand on est en train de calculer la fréquence des contractions, souvent on est déjà dans l'anticipation de la prochaine. Ce qui peut augmenter la perception de la douleur aussi, il y a le stress, la fatigue, le froid, la faim, la solitude, le manque de support et l'incompréhension totale de ce qui est en train de se passer. Alors que pour les facteurs qui vont contribuer à réduire la perception de la douleur, on retrouve le fait d'être bien informé, mais aussi la relaxation, la confiance, le support, le fait d'être reposé et bien nourri, de se retrouver dans un environnement familier et confortable, le fait d'être active et, pendant l'accouchement, le fait de rester dans l'instant présent et de prendre les contractions une à une. Mais rappelle-toi ici que réduire la perception de douleur, c'est pas la supprimer non plus, mais plutôt changer l'intensité et reprendre le pouvoir d'une certaine façon. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'entre chaque contraction, il existe une pause. Puis, chaque pause entre les contractions devrait être savourée comme un moment de répit, où le temps est suspendu non pas dans l'attente de la prochaine contraction, mais plutôt dans la présence à cet instant, le seul qui compte finalement. Plus facile à dire qu'à faire, je le sais. La gestion de la douleur fait d'ailleurs partie des questionnements qui reviennent le plus souvent en préparation à la naissance. Et c'est pourquoi j'avais envie d'aborder avec vous quelques outils de gestion de la douleur dans cet épisode. Parce qu'être préparée et confiante, en plus d'avoir un coffre à outils bien rempli, peut jouer aussi sur la perception de la douleur. Et là, je parle d'outils, mais ça a rarement à voir avec l'aspect matériel. À commencer par le soutien. Le soutien que tu vas recevoir pendant le travail va jouer un rôle essentiel pour t'aider à gérer ta douleur. Puis là, ça peut être la présence de ton partenaire, mais aussi d'une accompagnante à la naissance ou d'une personne significative pour toi. À noter ici, pour les partenaires surtout, donc si vous faites appel à une accompagnante à la naissance, l'accompagnante ne vous remplace pas ni vole votre place. Donc au contraire, elle va contribuer à préserver la bulle puis à renforcer le partenaire dans son rôle de soutien. Ce qu'on sait aussi pour favoriser le processus physiologique de naissance, c'est qu'il est essentiel de considérer l'environnement. La femme en travail doit se sentir suffisamment en sécurité dans un environnement qui est non menaçant pour que la synergie hormonale joue en sa faveur. La production d'endorphines, qui est une hormone naturelle sécrétée par le corps, qui est un peu comme notre morphine naturelle, va être facilitée entre autres par la pénombre, par l'utilisation d'un minimum de paroles possibles, mais aussi par le chuchotement, le contact de l'eau et la possibilité d'émettre des sons. Ici, chaque geste compte, que ce soit fermer les rideaux, tamiser les lumières, apporter ce qu'il faut pour vous garder au chaud, mais aussi utiliser des odeurs, des sons réconfortants, puis tourner le moniteur pour éviter de le regarder en tout temps. Faire de son espace de naissance une bulle réconfortante, ça n'a absolument rien de futile ni de superficiel, et ce, peu importe le lieu où tu donnes naissance. Je l'ai nommé un peu plus tôt dans ce qui était favorable pour la sécrétion d'endorphines, donc la possibilité d'émettre des sons. Émettre des sons, ça aiderait le corps à produire son propre remède à la douleur. Donc, ce que je disais un peu plus tôt, les fameuses endorphines. Évidemment, il n'y a pas personne qui est obligé de gémir ou de s'obliger à émettre quelconque son, mais celles qui en ressentent le besoin, y retrouvent généralement un grand soulagement. Alors ici, c'est juste une invitation peut-être à laisser tomber les barrières, à laisser tomber ton propre jugement même et t'ouvrir à la possibilité d'émettre des sons et des sons graves de préférence. On sait également que la peur et l'anxiété vont avoir tendance à entraîner une réaction de fermeture, une réaction de repli sur soi qui va s'accompagner de tensions musculaires et qui, par le fait même, peut augmenter la perception de la douleur. Donc, le fait d'amener son attention sur la respiration peut juste détourner le focus de sur la douleur ou encore de diminuer l'appréhension face à la contraction à venir. Donc, la respiration consciente va favoriser la détente, en plus d'assurer une bonne oxygénation de maman, mais aussi de bébé. Tout comme les techniques de relaxation peuvent t'aider à te détendre davantage, à commencer par ce qui se passe au niveau du visage. Donc, avec les yeux relax, les mâchoires relax, la bouche molle, ce qui va favoriser un col mou, un col qui va se détendre, qui va s'ouvrir pour accueillir le passage de bébé. Un autre outil au niveau de la gestion de la douleur, c'est le mouvement ou la variété des positions. Donc, les changements de position fréquents, les mouvements asymétriques au niveau du bassin, puis l'effet de la gravité vont stimuler la progression du travail, en plus de faciliter, de favoriser finalement la descente de bébé dans le bassin. C'est comme une véritable danse là, qui s'installe entre la femme et le bébé pour favoriser le bon fit, le bon positionnement pour permettre la progression du travail. Donc, si on se laisse guider intuitivement, le corps va se mettre en mouvement naturellement pour accueillir les vagues de contraction qu'il traverse. Donc ici, il faut comme s'enlever de la tête qu'il existe une seule bonne position d'accouchement. Donc, il est inutile de se forcer à adopter une position qui est contre-intuitive à une certaine phase du travail. On peut faire confiance au corps. Le corps sait faire. Le corps sait faire progresser le travail, mais c'est aussi pousser bébé. Donc, la meilleure position, ça va être celle qui te permet de respirer. Et rappelle-toi que ta position préférée en début de travail sera pas forcément la même rendue à la phase de pousser non plus. Donc, encore là, on s'ouvre aux différentes possibilités en demeurant à l'écoute des sensations, mais aussi de son instinct. Et même si on sait que la gravité peut être favorable pour faire descendre bébé, c'est inutile de s'épuiser à faire les 100 pas continuellement. Donc, pourquoi pas alterner entre des positions neutres qui vont permettre le repos, comme la position couchée sur le côté, par exemple, et alterner avec des positions plus verticales qui vont utiliser l'effet de la gravité. La clé ici, c'est la variété. Donc, assise, semi-assise, debout, accroupie, en suspension, couché sur le côté, à quatre pattes, penché vers l'avant, avec accessoires, pas d'accessoires, les possibilités sont infinies. Et là, je ne peux pas passer sous silence mon accessoire préféré. Je ne sais même pas si je peux dire que c'est un accessoire, mais je te parle ici de la toilette ou de la salle de bain, qui est comme ton espace sacré pendant la naissance. L'espace où tu peux avoir la paix, où tu peux refaire ta bulle, te concentrer, puis retrouver ton intimité. Et naturellement, bien, pour te rendre à la toilette, tu vas avoir besoin de te mobiliser. Donc, de te lever, de marcher, de favoriser l'effet de la gravité, ce qui va faciliter la descente de bébé, sans oublier que l'espace que ta vessie occupe quand elle est remplie, c'est de l'espace que bébé n'a pas pour descendre. Donc, quand tu ne sais plus par où commencer pour relâcher, te détendre, il y a comme quelque chose de très, très instinctif une fois rendu sur la toilette. Donc, le périnée se retrouve dans le vide, les sphincters doivent se relâcher pour te permettre d'uriner. Tout ça sans que tu aies besoin de réfléchir ni de contrôler quoi que ce soit. Parce que tes habitudes d'élimination sont assez automatiques depuis le temps que tu maîtrises le contrôle de la continence. Bref, la toilette, c'est comme un tout inclus. Puis souvent, c'est la job du partenaire de faire un rappel ou de proposer d'aller vider la vessie à un certain intervalle. Parce que les chances sont grandes que tes sensations de douleur prennent le dessus sur tes sensations d'envie. Le toucher maintenant. Donc le fait d'être touché, massé ou simplement d'être en contact avec ton partenaire ou la personne qui t'accompagne peut être grandement apaisant. Mais pas pour tout le monde. Certaines vont être profondément irritées par le toucher et ne le sauront probablement pas avant de se retrouver en travail. Donc, pour le partenaire ici, autant ça peut être une belle façon de s'impliquer dans le processus de naissance, mais ne soyez pas vexé si vous vous faites repousser. Donc, il existe différents types de toucher qui peuvent être utilisés à différents moments, encore une fois. Si on prend les points de pression, par exemple, donc les points de pression consistent à créer comme un deuxième signal douloureux. Donc un point de pression à distance de la douleur des contractions pour distraire le cerveau. Ce qui fait qu'on va les utiliser pendant les contractions pour changer l'endroit où l'attention va être dirigée. Mais une fois qu'on est dans l'espace de pause entre deux contractions, on relâche aussi les points de pression parce qu'on veut enlever ce signal douloureux-là également. Alors que pour les massages ou les caresses, ben, eux vont procurer davantage de détente entre les contractions. Donc, ils vont diminuer le message de douleur qui est envoyé au cerveau. Le massage va permettre en effet de relaxer les muscles qui sont tendus tout en améliorant la circulation sanguine aussi. Puis là, au final, ce qui compte vraiment, c'est l'intention du toucher et non le talent. Donc un toucher conscient, attentif, un toucher présent peut représenter un outil vraiment puissant. J'y vais avec le bain maintenant ou l'accès à l'eau. Dans la plupart des lieux de naissance, c'est possible à ta demande d'avoir accès à un bain. Tu peux l'utiliser également en début de travail quand tu es encore à la maison. Donc, généralement, l'immersion dans l'eau va favoriser la relaxation, alors que la chaleur de l'eau, elle, va favoriser aussi une meilleure circulation sanguine puis contribuer à la détente musculaire. Selon certaines études, on dirait qu'on dit que l'utilisation du bain en début de travail peut même contribuer à diminuer la douleur, à stimuler la progression du travail et à améliorer la satisfaction de la mère face à son expérience d'accouchement, ce qui est quand même pas banal. Finalement, j'aborde de façon très succincte la péridurale parce qu'elle peut également faire partie de ton coffre à outils. Parce que non, c'est pas le démon et on a toute une vision différente par rapport à la péridurale. Pour certaines, c'est sans équivoque, dès qu'elles vont pouvoir avoir la péri, elles vont le demander et y avoir recours. Alors que pour d'autres, ça peut représenter une déception, une honte, voire même un grand échec d'avoir finalement eu recours à la péridurale. Et tout ça, c'est 100% légitime. Donc, comme c'est un sujet très, 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 très vaste et souvent sensible, je vais y accorder un épisode complet au sujet de la péridurale prochainement. Et encore une fois, je tiens à rappeler ici que la liste d'outils dont je vous ai fait part est loin d'être exhaustive. Donc, ce sont des pistes d'exploration pour approfondir de ton côté ta propre préparation à la naissance. Dans le segment Passe vite aujourd'hui, je ne pouvais pas passer à côté de notre formation Connaissance, ton programme de préparation à la naissance complet pour une expérience positive dans le respect de tes valeurs et à la hauteur de ta puissance. On utilise l'approche inclusive, donc peu importe le lieu de naissance, c'est une approche basée sur les principes de l'accouchement physiologique et l'optimisation du processus dynamique qui se joue entre toi et ton bébé. En toute transparence, c'est moi qui l'ai conçu, mais je suis assez confiante pour te dire qu'il s'agit d'une mine d'or de ressources pour que tu reprennes le pouvoir sur cet événement unique et transformateur qui est la naissance de ton enfant. Donc, je te laisse le lien dans les notes de l'épisode pour avoir accès à tous les détails de cette préparation à la naissance. Le coup de cœur dont je te parle aujourd'hui, c'est un exercice super pertinent en lien avec la préparation à l'accouchement, en fait, qui est l'exercice des glaçons. C'est un exercice qui se retrouve dans le livre de Nancy Bardach, « Se préparer à la naissance en pleine conscience » et qui consiste finalement à prendre une poignée de glaçons dans chacune des mains et à tester différentes façons. Donc, soit d'abord en protestant, en chialant, en manifestant son mécontentement, sa douleur et tout ça, puis de refaire l'exercice dans un deuxième temps en utilisant des outils de stratégie de gestion de la douleur. Entre autres, l'attention à la respiration, ça pourrait même être d'utiliser les outils comme le toucher, le massage, les points de pression, et d'observer à ce moment-là comment les sensations peuvent différer d'une expérience à l'autre. Donc, si on y résiste, plutôt que si on fait l'utilisation finalement des différents outils de gestion de la douleur. Donc, je souhaitais vous en glisser un mot ici. Je vais également vous laisser en lien dans les notes de l'épisode un lien vers une infographie qui résume l'exercice des glaçons. Puis, je suis curieuse, si jamais tu en fais l'essai, si vous en faites l'essai en couple également, viens nous partager comment ça s'est passé pour toi, l'exercice des glaçons. Dans le segment mot de passe, j'ai posé la question « Quelle est ta relation avec la douleur? » et « Comment t'es-tu préparée pour faire face à la douleur? » Et dans le cas où tu t'es préparée et que tu as utilisé certains outils, est-ce que ça t'a semblé efficace? Alors, je vous laisse écouter les réponses.
Je ne suis pas quelqu'un qui a une très grande tolérance à la douleur. Comment je me suis préparée à la douleur? En fait, je dirais que je ne m'étais pas vraiment préparée parce que dans ma tête, c'était assez clair que j'allais avoir une épidurale. Donc oui, je m'étais un petit peu préparée, j'avais appris un peu les points de pression avec mon conjoint et tout ça, mais dans ma tête à moi, c'était très très clair que si... En fait, c'était même pas une option de si c'était possible ou pas, c'était que j'allais demander l'épidurale. J'avais pas vraiment envisagé un scénario autre que ça. Finalement, c'est ce qui est arrivé pour mes deux filles, c'est le choix que j'ai fait et j'étais très alignée avec ce choix-là. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai géré ma douleur. Donc, j'ai vraiment décidé d'avance. Puis, je pense que si j'avais pas pu avoir l'épidurale parce que c'est arrivé à certaines de mes amies, en fait, parce que tout a été trop vite, je sais pas comment j'aurais fait. Donc, je pense que si c'était à refaire, je me préparais quand même avec l'idée que peut-être c'est pas possible toujours d'avoir une épidurale. Mais dans mon cas, je l'ai pas fait et j'étais très chanceuse que tout fonctionne comme prévu.
Pour ce qui est de la douleur, c'est sûr que c'est un gros sujet, puis c'est un sujet qui suscite beaucoup de questionnements. Pour l'instant, comment je fais pour me préparer? Beaucoup de lectures, encore une fois, mais beaucoup aussi de témoignages auprès de personnes qui l'ont vécu, des personnes qui l'ont vécu plus difficilement, des personnes qui l'ont vécu plus facilement, de vivre cette douleur-là. Donc, ça permet d'avoir vraiment un portrait global, puis de pas non plus se faire trop d'attentes par rapport à la douleur. Tu sais, je pense qu'il faut la laisser venir, il faut la expérimenter sa propre douleur, puis par la suite, ben essayer de mettre en place des techniques ou des techniques de soulagement de la douleur que j'aurais comme apprises pendant tout le processus de ma grossesse. Donc, je l'anticipe quand même assez positivement, cette douleur-là. Je l'apprivoise un peu à tous les jours, comme je disais, en lisant, puis en écoutant des témoignages, en parlant aussi. Puis, c'est beaucoup un travail d'équipe, je pense. Justement, avec le conjoint, cette douleur-là, que lui aussi soit préparé, ben conjoint ou conjointe, dépendamment de la situation, mais que lui aussi soit préparé à voir, puis être témoin de cette douleur-là pour que la personne qui accompagne sache quoi faire, puis, ou du moins, sache comment se positionner face à cette douleur-là pour pas sentir qu'on la vit seule, puis pour sentir que si on a besoin, ben il y a quelqu'un qui est là pour nous aider à passer à travers. Donc, je pense que c'est vraiment de l'avoir comme un travail d'équipe, puis de pas l'avoir comme si on allait la vivre seule, qui pour l'instant m'aide là à l'anticiper là, cette douleur-là. Merci pour ton écoute. Dans le prochain épisode, on va jaser un peu plus en profondeur du rôle du ou de la partenaire. Alors, on se retrouve lundi prochain.